C'est parti.
Voilà. Donc, troisième intervention. Je résume aussi toute chose. Donc, nous sommes tous des êtres spirituels parce que nous avons reçu le baptême et les autres sacrements qui nous confèrent l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on soit des êtres éthérés, l'acception du mot spirituel. Enfin, on peut vivre cette spiritualité très profondément, cette union à Dieu dans le fond, au fond de nous-mêmes, ce à quoi il aspire, quoi, pouvoir nous donner tout ce qu'il a. S'il nous en donne pas plus, c'est qu'il peut pas, il n'a pas, il n'y a pas en nous assez le désir de le recevoir. Mais s'il y avait en nous le désir absolument de le recevoir, il se précipiterait pour nous donner tout. Voilà. Alors, ce qu'il veut nous donner, c'est lui-même, et c'est la beauté absolue. Toute la beauté de Dieu, toute sa vie, tout son amour, etc., pour nous faire partager sa propre vie. Voilà. Alors, comment nous confère-t-il, c'est la troisième intervention, donc, cet après-midi, comment va-t-il nous conférer tout cela? On s'en doute un peu, puisque nous avons évoqué le baptême. Eh bien, il nous confère tout cela à travers les sacrements. À travers les sacrements, il nous donne son esprit, sa façon d'être, son état d'esprit, puisque je l'avais exprimé comme ça, c'est un mot d'un père chez nous qui est décédé depuis longtemps, là, qui était un Aveyronnais, il disait ça avec l'accent de l'Aveyron. L'Esprit Saint, c'est l'état d'esprit de Dieu. Voilà. Donc, ça exclut de nous cette passivité, on pourrait dire, ce quiétisme d'attendre qu'il se passe quelque chose en ne faisant rien. Ce que nous avons à faire, surtout, c'est d'être accueillant de ce qu'il désire faire en nous. Et de ne pas, dans le fond, essayer de s'auto-justifier. Alors, vous savez, les auto-justifications, elles sont de divers ordres. Hein. C'est trop fort pour moi, mais merde, s'il nous le propose, c'est qu'il veut le réaliser. Alors, c'est toujours irréalisable en nous, mais, comme disait Saint Thérèse d'Avant Jésus, s'il nous le propose, c'est que si on ne peut pas, c'est que lui veut le faire. Et vous voyez, toute l'importance dans notre existence, d'être accueillant du don de Dieu, ce qu'il veut réaliser en nous. Et l'autre jour, j'étais dans une communauté religieuse, une jeune sœur qui me dit « Oui, mais moi, je suis comme ça. » Eh bien, si vous êtes comme ça, allez-y, quoi. Mais ne demandez pas à recevoir le Seigneur. Lui, il veut de faire de vous une sainte, comme il est saint.
Et moi, je veux pas.
Et moi, je veux pas, parce que je suis comme ça, donc ben, restez où vous êtes. Donc, il veut faire de nous tous, des saints. Mais il y a autant de sainteté qu'il y a de personnes. Hein? Et c'est pas en faisant l'ange, on fait la bête, hein, comme on dit dans le vocabulaire courant. Donc c'est uniquement à travers ce que nous avons à vivre, d'être réceptif du don de Dieu, que lui-même nous donne, puisqu'on est des êtres aussi de chair, concrètement, pour qu'on comprenne, à travers les sacrements. Ce que je vous disais du baptême, ben le baptême, il faudrait peut-être qu'on retrouve aussi la profondeur des signes. Mais quand vous êtes face à des mamans, oh oui, mais il va attraper froid, si on met un peu d'eau, il va pleurer, puis à la fin, bon, on verse une petite goutte, une micro-goutte sur le front. Alors qu'en fait, vous vous rendez compte, jadis, c'est... C'était pour qu'on comprenne, quoi. On mourait, c'est-à-dire on disparaissait sous l'eau, tête comprise, pour ressurgir un être nouveau. Quoi. Mort, c'est une mort-résurrection, et qui après met toute une vie pour se réaliser en nous. Alors, ben, je ne suis pas le premier à dire ça. Je vous citais ce matin la prière eucharistique numéro 2. Dieu Saint, toute sainteté vient de toi, et non pas de moi, et non pas au bout de mes efforts non plus. Vous vous rappelez plusieurs fois, comme j'aime beaucoup ce bon mot, je vous l'ai cité lors des pèlerinages. Et si tu vois un jeune moine monter au ciel par ses propres forces, retiens-le par les pieds. C'est le meilleur moyen de se casser la figure si on veut faire par lui-même. Par contre, il ne faut rien lui refuser. De tout ce qu'il va nous présenter à travers eh bien, le quotidien. Il va nous sanctifier à travers des choses qui ne nous plaisent pas souvent. Des choses, des petites choses du quotidien. Il ne faut jamais aller chercher la grandeur. Il va passer toujours par des petites choses qui nous sont très accessibles. Et après, c'est lui qui fait le reste. Il se contente uniquement d'un tout petit pas qu'il nous propose, dans lequel il nous aide. Et après, c'est lui qui grosso modo, nous prend dans ses bras pour nous faire avancer. Mais si on se cramponne à nous-mêmes, on ne peut rien faire. Bon, il y a des personnes, il y a des violeurs. Dieu n'est pas un violeur, il ne va pas nous violer. Hein. Il attend qu'on s'ouvre pour nous donner ce qu'il est, qu'on fasse un petit pas, puis lui, il fait tout le reste. Comme dit Thérèse d'Avila, l'esprit fait l'œuvre lui-même si l'homme vit dans la vérité. Et si vous prenez Jean de la Croix, il nous appelle à la sainteté, mais on ne sait pas ce que c'est que la sainteté. Vous savez, sinon on rentre tout à fait dans ces trucs-là qu'on évoquait au début, ces femmes pieusardes, tout ça, puis pour finir, on a envie de leur coller des claques, quoi. Ça n'a rien à voir, la sainteté, c'est uniquement faire ce qu'il va nous proposer. Hein, et Et comme dit Jean de la Croix, comme on ne sait pas ce que c'est que la sainteté, il a des phrases comme ça, pour aller où tu ne sais pas, on ne sait pas ce que c'est que la sainteté, il faut accepter que le Seigneur t'amène par un chemin que tu ne connais pas. Et qui ne va pas passer par des choses extraordinaires, mais par notre quotidien. C'est bien ça aussi que nous propose la petite Thérèse, hein, parce qu'elle s'est sentie elle-même appelée intérieurement à un très haut niveau de sainteté, parce que très amoureuse de Jésus, mais avec aucun moyen. Donc, elle s'est dit, dans le fond, il doit y avoir une ruse. S'il propose quelque chose et qu'il n'en donne pas les moyens, c'est que c'est lui qui veut réaliser en nous. Mais à ce moment-là, je ne dois rien lui refuser de ce qu'il va me proposer à travers les banalités du quotidien. Par exemple, maintenant, un autre, un ancien, là, c'est Irénée de Lyon. Hein. Vous voyez qui c'est, Saint-Irénée de Lyon? Quand on était à l'école primaire, on a appris Potin et Blandine. Vous vous rappelez, oui, dans les livres d'histoire? Bon. Bon, qui avait une chaîne d'épicerie. Félix Potin, on y revient. Mais. Et alors, la génération de saints d'après, la génération suivante, après Potin et Blandine, à Lyon, c'est Saint-Irénée. C'est Saint-Irénée de Lyon. D'ailleurs, qui a écrit beaucoup. Mais non, il est mort en Asie mineure, un peu en exil. Il y avait des luttes énormes, d'une part avec les Romains, mais aussi entre chrétiens. Il y a eu des conciles. Pardon ? Ah non, parce qu'il y a eu des enjeux terribles. Il fallait savoir qui était Jésus. C'est comme ça qu'on est arrivé à écrire le « Je crois en Dieu ». Parce que qui est Jésus ? Ça peut aller très loin. Qui est Jésus ? J'ouvre une parenthèse. Qui est Jésus ? C'est soit un homme qui a été investi d'un pouvoir extraordinaire par Dieu, soit c'est Dieu qui fait semblant d'être homme. Dans les deux cas, on est couillonné. Et on arrive à la conclusion. On est quand même en l'an 300 ou plus, hein, donc 300 ans après la mort de Jésus. Donc on arrive à la conclusion, il est à la fois véritablement homme. Comment peut-il nous sauver, nous, hommes, s'il n'est pas homme? Et en même temps, il est véritablement Dieu. Vrai Dieu et vrai homme, comme on dit dans « Je crois en Dieu ». Alors après, c'est pour la question, et Marie, de qui est-elle, la maman? De Jésus homme ou de Jésus Dieu? Et comme c'est inséparable en Jésus, et c'est un truc absolument fou, la Vierge Marie, elle est mère de Jésus homme et de Jésus Dieu. Voilà, et d'où le terme qu'on n'emploie pas dans l'Église d'Occident, mais en Grèce, enfin en langue grecque, c'est ce qu'on appelle la théotokos, celle qui engendre Dieu. Tokein, ça veut dire engendrer en grec. Donc théos et tokein, celle qui engendre Dieu. Alors, ce que je vous disais, vous étiez surpris de la beauté de la nature humaine. Vous vous rendez compte qu'une simple femme de Galilée, il en a fait la mère de Dieu. Qui montre la beauté de la destinée humaine. C'est plus que d'avoir une belle baraque et la belle voiture. Et il veut nous faire participer. Bon, elle est rachetée par avance de cette faute originelle, qui est cette rupture avec Dieu. Et il veut nous faire participer. La Marie est vraiment notre maman, maman du ciel. Et il veut nous faire. Nous, on est frères du Christ. Enfant du Père, etc. Vous voyez, la destinée humaine, à la fois, alors si on prend l'homme par le bas, on est des singes savants, on est bien plus que ça. Peut-être notre corps, c'est un corps qui est issu génétiquement de tout le, ces grands singes qui nous ont précédés, ah, oui. Plus ou moins singes, plus ou moins hommes, mais voilà, donc on a une âme qui est faite à image et ressemblance de Dieu. Alors, oui, j'en étais à Saint-Irénée, ce n'est pas toi qui fais Dieu, mais c'est Dieu qui te fait. Hein, ne va pas trop vite. Si donc tu es l'ouvrage de Dieu, attends patiemment la main de ton artiste. Il veut te remodeler. Mais ne te défile pas s'il veut te remodeler. Et saint Paul, tout simplement, dans la première aux Corinthiens, l'homme qui fonctionne avec son psychisme, uniquement ses capacités cérébrales, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il fonctionne dans ses propres limites. Donc il est dans ses raisonnements, et c'est pas possible, et c'est ceci, et c'est cela. C'est folie pour lui, il ne peut le connaître, car c'est l'Esprit, c'est par l'Esprit que nous recevons que l'on peut en juger. Et ce que je vous disais au départ, vous rapportant de Paul aux Galates, si l'Esprit est votre vie, ben, que l'Esprit vous fasse vivre. Vous voyez un peu ce qu'il va falloir que nous lâchions. Hein, souvent on se dit, ben, il faut lâcher, on pense à des choses matérielles. C'est une façon de raisonner, de vouloir faire par soi-même, qui, pour finir, va nous apporter plus gros que de se priver de quelques morceaux de sucre, parfois. Et c'est là-dessus, justement, qu'il va insister pour, quand c'est lui qui met la main à la pâte, quoi, pour nous faire avancer. Donc l'apôtier de Dieu, voilà, il veut vraiment nous donner ce qu'il est. Quand nous aimons quelqu'un, on veut lui donner ce qu'on a de meilleur. Bon, les pots de sauce, c'est pour les petits chiens, hein, mais il veut vraiment nous donner ce qu'il a de meilleur. Ce qu'il a de meilleur, c'est lui. Vous vous rappelez, donc, on ne donne pas un scorpion si un gamin demande un œuf, etc. A fortiori, lui, il veut nous donner sa propre vie. Alors, il va choisir un moyen. L'Église, c'est le corps du Christ. C'est la métaphore qui fait comprendre vraiment que c'est vraiment lié au Christ, qui est la tête. Et il va se communiquer à nous par ces moyens dont nous parlions, que sont les sacrements. Alors, il y a trois sacrements de l'initiation chrétienne, je répète, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Alors ça a été compris dès les premiers pères, dans ce siècle-là, là où il y avait tous ces conciles. Ils ont bien compris que ces sacrements étaient vraiment liés à la progression de la vie de l'Esprit-Saint au plus profond de nous. Et que ça allait avoir certains aspects qui sont assez déroutants en nous, et vous commencez à le saisir par le baptême, puisque le baptême nous donne Dieu, la lumière divine, hein, employons cette image, va chasser nos ténèbres. Et donc nous rencontrerons forcément dans notre existence le baptême, si le baptême s'accomplit, et si nous sommes dociles, si vous disiez à l'Esprit Saint, nous allons rencontrer des phases douloureuses dans notre existence où il va chasser nos ténèbres. Dans le fond. Alors, nous percevons uniquement que les choses douloureuses. Mais après, vous l'avez certainement remarqué dans vos existences, c'est parfois en passant à travers des épisodes très douloureux qu'on est dégagé de tas de façons de voir les choses et que quelque chose se déploie en nous qui nous fait percevoir quelque chose de Dieu qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus profond, beaucoup plus pris dans son amour, dans sa tendresse, et qui nous fait comprendre que ben, c'est certainement pas terminé, il va falloir repasser de nouveau à la moulinette, mais que nous en sortirons en quelque sorte les grands vainqueurs, parce que nous découvrirons encore des beautés, des profondeurs de Dieu, un amour hein, que nous n'avions jamais envisagé jusque-là. Qu'est-ce que c'est, des bicycleurs? Une de douche? Voilà ce que disait Grégoire de Nice, je vous ai déjà cité cet homme, Saint Grégoire de Nice, en Cappadoce, au IVe siècle, la vie spirituelle est d'une part totalement dépendante de la vie divine, c'est Dieu qui donne son esprit, d'accord, et c'est l'Église qui la possède et qui la communique par les sacrements, et d'autre part de notre liberté à se tourner vers Dieu. Si on ne se tourne pas vers Dieu, les sacrements ne servent à rien. Sinon, c'est de la magie. Je reçois un sacrement, ça y est, j'y suis. Et vous voyez que c'est d'autant plus beau qu'il fait appel à notre liberté, à notre vouloir profond de se tourner vers lui afin de pouvoir nous transformer. Et un mot, je ne sais pas où je l'ai trouvé, parce que je n'ai pas surligné en rouge, je n'ai pas mis en rouge, qui fait que l'Église, si vous y réfléchissez, puisque l'Église nous donne la vie de Dieu par ce moyen, à travers les sacrements, ça veut dire que l'Église, dans sa profondeur sainte, c'est une matrice qui donne la véritable vie. Hein, c'est pas un truc où on anime les messes le dimanche, non pas qu'il faille pas le faire, mais dans sa profondeur sainte, l'Église est cette matrice qu'a voulu le Seigneur, qu'il féconde pour nous donner la vie. Et cette vie est une vie, c'est la propre sienne. Alors voyons le baptême. Vous vous rappelez dans l'évangile de Saint Jean, l'entrevue de nuit entre Jésus et Nicodème. Nicodème, qui est du Sanhédrin, mais qui est un brave type, il veut vraiment savoir qui est Jésus. Donc c'est chapitre 3e de l'évangile de Saint Jean. Et Jésus le provoque dans le fond, il lui dit, à moins de renaître d'en haut, nul ne peut voir le royaume. Et alors Nicodème le comprend de sens littéral, il dit, je suis déjà vieux, ma mère est morte, je ne vois pas comment je pourrais rentrer de nouveau dans le sein de ma mère. Mais ça signifie profondément qu'il y a quelque chose qui doit être complètement réorganisé en nous, non pas sur le plan matériel, sur le plan de la chair, comme l'a compris Nicodème, mais sur le plan de notre capacité la plus profonde à rentrer en relation avec Dieu, et qui est l'Esprit. Donc il nous fait voir les choses de façon différente, et il dit à Nicodème, il vous faut naître d'en haut. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quelconque, de quiconque est né de l'Esprit-Saint. Prenez par exemple Saint-Pierre, quand tu seras vieux, un autre t'appassera la ceinture et t'amènera où tu ne voulais pas aller. C'est-à-dire celui qui commence à rentrer dans cette docilité à Dieu, qui se laisse guider par l'Esprit, se voit propulsé dans des zones qu'il n'aurait pas spontanément choisies. Hein, nous préférons tous avoir les pieds dans des charentaises, bien confortablement installés dans la vie, sans souci, en faisant un petit peu la charité à droite, à gauche, et surtout que ça ne nous coûte pas. Et puis si possible, en plus, que l'on porte des jugements sur ceux qui ne font pas exactement comme nous, qui forcément sont des mauvaises personnes, et qui sont mal intentionnées. Oui, c'est infiniment plus. C'est se laisser emporter par l'Esprit. Donc ça veut dire profondément que le premier sacrement qui nous est donné va mettre du temps à agir en nous. Et ce qui faisait dire à un des premiers pères du désert, qui avait bien compris la chose, alors ces jeunes moines viennent le trouver, lui disent, mais alors, si vous attendez quelque chose du baptême et que ce n'est pas réalisé directement dans le baptême, c'est qu'il y a un deuxième baptême qui permet la renaissance d'en haut. Et alors là, ce vieux moine les provoque, leur dit, mais non, c'est le même baptême. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous n'acceptez pas de vous convertir, le baptême ne vous sert à rien. Il est inutile. Et avec cette phrase provocatrice, la conversion est plus grande que le baptême. Et nous qui sommes de pays de ski, on sait très bien ce que c'est qu'une conversion. C'est changer de 180 degrés d'orientation et donc de se tourner vers Dieu pour que lui, hein, puisque nous on ne peut pas, nous transforme. Mais si on n'accepte pas de se retourner vers lui, il ne peut rien faire. Alors Jean de la Croix nous dit à ce propos, dans un de ses ouvrages, c'est la montée du Carmel, le Carme, il appelle ça la montée du Carmel, deuxième livre, chapitre 5, hein, renaître au Saint-Esprit en cette vie consiste en ce qu'une âme vienne à être très semblable à Dieu en pureté. Ce qu'on évoquait ce matin, l'égalité de beauté. Sans avoir en soi aucun mélange d'imperfection, et ainsi se peut faire une pure transformation par participation, quoique non pas essentiellement, c'est-à-dire d'essence divine. Nous serons toujours des hommes. Nous participons à ce qu'est Dieu, mais on ne devient pas Dieu, l'être divin, c'est ça, l'essence divine, l'être divin. Donc la première lettre de Macaire, celle que je vous ai citée, est tout à fait dans cet état d'esprit. Il nous faut renaître d'en haut et accepter cette renaissance qui, forcément, on a parlé de la cesse ce matin, sera précédée par des morts dans notre vie. Ce qui fait si dire même à Saint-Jean de la Croix, à une prieure du sud de l'Espagne, là. Et surtout que les souffrances ne vous manquent pas. C'est ce qui fait. Et par exemple, chez les pères du désert, un jeune moine qui va voir un ancien, il lui dit, oh ben je me vois tranquille et sans combat. Et l'autre lui dit, mais forcément, regarde-toi, tu es ouvert de tous les côtés. Tout te traverse, tu ne fais opposition à rien, donc tu risques pas de faire opposition à toutes les pensées, tous les désirs qui passent à travers toi. Donc évidemment, tu vis apparemment tranquille et sans combat. Mais voilà, tu ne combats pas parce que tu fais ce qu'il te plaît, que tu ne fais jamais appel à Dieu, tu ne veux pas te tourner vers Dieu, tu ne fais pas appel à Dieu pour qu'il vienne t'aider dans les combats. Si vous voulez, le baptême va mettre toute une vie donc à se réaliser en nous par toute une série de petites choses qui vont nous faire mourir à des façons d'être, pour nous faire ressusciter à des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus vastes, façon de comprendre, de nous donner aussi. Il y a aussi, il faut savoir, dans cette chose-là, des moments de repos. Hein, Dieu aussi voit quand nous avons fait un effort que vraiment on est un peu patraque. Il sait parfois nous accorder des sucreries. Vous savez, les guerriers ne sont pas toujours sur le front. Hein, il y a le repos à l'arrière, le théâtre aux armées, puis éventuellement.
Les doubles rideaux.
Les doubles rideaux. Voilà, il sait nous accorder des pour nous refaire. Hein. C'est. Mais voilà, vous voyez, ce qui est sous-jacent dans tout ça, c'est la confiance qu'on lui accorde. Si on lui accorde la confiance, si on fait un tout petit pas, eh bien lui, il va se donner en abondance et nous dégager progressivement de nous-mêmes. Et nous faire découvrir, il va dilater notre vie. Dans le fond, notre vie sera de plus en plus explosée, quoi, parce qu'on n'aurait jamais envisagé notre vie comme ça. Et vous le savez, dans votre existence, dans la mesure où vous vous tournez vers Dieu, eh bien, votre vie devient de plus en plus vaste. Je ne dis pas au niveau des horizons matériels ou des richesses matérielles de la vie, mais nous n'avions jamais envisagé notre vie comme ça, aussi belle. Et vous le voyez, cette vie aussi belle est aussi dépendante de choses qui précèdent et qui sont souvent aussi des choses qui nous font souffrir. Le baptême se réalise petit à petit, nous dégage. Et vous voyez que c'est des choses très subtiles, hein, c'est pas... Nous envisageons toujours les trucs grosselles, comme on dit souvent en rigolant, chez nous on a des sortes de magasins à l'intérieur des couvents où on trouve les savonnettes, les stylos à vie, etc. On trouve toujours dans les procures les stylos à vie qui sont vides. Généreusement, les frères les remettent, une fois qu'ils s'en sont servis, qu'il n'y a plus d'encre. Mais voilà, il nous dégage de tas de choses auxquelles on ne pense pas. Hein. On pense toujours à des trucs très concrets qui sont directs. Mais en tout, nous sommes les grands vainqueurs, comme dirait Saint Paul. Parce que nous découvrons un amour qu'on n'avait jamais envisagé. On est aimé, follement aimé. Et c'est nous qui mettons des freins à cette explosion de vie et d'amour, en nous bloquant dans des situations, pas des situations extérieures que nous subissons souvent, mais des situations intérieures dont nous sommes les auteurs. Donc c'est véritablement le baptême, une résurrection. Et les bons mots des pères des premiers siècles, qui ont bien compris aussi que quand l'esprit était là, ça nous aide à sortir de nous-mêmes et que ça va bagarrer. C'est un des tout premiers moines qui disait « Lorsque l'esprit de Dieu est quelque part, il est suivi de près par la persécution et par la lutte. » Et vous savez quel est notre ennemi principal? C'est nous-mêmes, encore plus que les démons. Nous nous bloquons sur nous-mêmes. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, de cette sœur qui dit « je suis comme ça », bon, voilà, un exemple de blocage. Parce que peut-être, de façon, sans trop saisir les contours de la chose, s'aperçoit que si elle accepte de sortir de la forteresse qu'elle s'est bâtie, ça va être douloureux. Mais vous voyez qu'on est couillon, parce que nous sortons, nous nous excluons de ce que Dieu veut nous donner, en nous bloquant sur nous-mêmes. Donc il veut nous donner infiniment plus. Souvent, je cite aux personnes un exemple qui est assez frappant, mais c'est une image, c'est une parabole absolument, que l'on peut trouver en astronomie. Vous savez que les étoiles, ça naît, puis ça meurt. Il y a une quantité de matière dans une étoile, et puis une fois que toute la matière est utilisée, c'est des réactions atomiques, l'hydrogène est transformé en hélium, et après l'hélium en carbone, en oxygène, et puis voilà, ça va suivre tous les éléments du tableau périodique. C'est les soleils qui les fabriquent. Et bien, quand ils ont tout utilisé, il ne reste plus rien, et puis ils s'effondrent sur eux-mêmes. Voilà, alors ça naît et ça meurt. Alors, quand un soleil commence à naître à partir des gaz qui sont dans l'espace, ça se concentre par la pesanteur, par la gravité, puis le soleil commence à rentrer en explosion, en ignition, puis il devient lumineux, mais la puissance de la lumière qu'il émet va chasser tout ce qui n'est pas pris dedans, tout ce qui n'est pas lumière. Et ça, vous avez ça, par exemple, ce stade, bien, dans une constellation que vous voyez dans le ciel dans ce moment, c'est les Pléiades. Les Pléiades sont des étoiles jeunes qui sont en train de chasser toute la matière qui n'est pas absorbée par l'étoile. Par le vent stellaire, particules émises par le soleil, chasse tout ce qui n'est pas pris dedans. Et un peu, on va dire, voilà, on reçoit le baptême, on reçoit cette lumière éternelle en nous qui va progressivement chasser nos ténèbres. Et ce que je vous disais, puisqu'il y a cette présence de lumière en nous, il y a une partie de nous-mêmes au plus profond qui est déjà transfigurée. hein, qui est déjà de la lumière de Dieu. Et voilà, si nous faisons opposition, que nous voulons qu'il change rien en nous surtout, ben nous bloquons le passage de cette lumière, et d'une certaine façon, nous restons toujours dans la ténèbre. Mais si nous acceptons qu'il opère en nous, qu'il nous transforme, à ce moment-là, petit à petit, et ça risque fort d'être douloureux, il va chasser tout ce qui est ténèbre. Et les forces des ténèbres cherchent justement à nous bloquer sur notre moi. C'est comme ça, il ne faut pas changer. Donc il veut nous rendre entièrement lumineux. Ce que je vous disais ce matin par rapport à Saint-Séraphin de Sarov. Voilà, sans notre participation, voilà, le baptême reste totalement inefficace. C'est provocateur, hein. Mais il ne peut pas faire grand-chose. Vous voyez, c'est notre liberté. Il nous respecte. Si nous disons oui, nous dirons toujours de façon maladroite, et bien à ce moment-là, il commence à opérer. Et il nous fait découvrir des choses, des pans d'amour que nous n'avions jamais devinées. Exemple, Macaire, un des moines des premiers siècles, dans sa première homélie. « Si quelqu'un n'a pas reçu de Dieu la grâce, s'il n'a pas espéré et obtenu le don du Saint-Esprit, il a rendu vain le projet de Dieu en lui, et renié en action toutes les Écritures. S'il n'a pas reçu l'énergie divine, il est le jouet des illusions. Il reste étranger à l'Église céleste, il reste étranger à l'Église céleste des premiers-nés, il n'a pas établi la communion avec les esprits des justes et des hommes parvenus à la perfection. Cet homme n'a pas commencé à adorer le Père en esprit et en vérité. Celui en qui Dieu n'habite pas n'a pas commencé à connaître Dieu, car telle est la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. C'est la parole qu'on citait de première lettre de Jean 1:3-2. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La naissance qui vient de Dieu le garde et le mauvais ne le touche pas. Vous l'avez compris aussi. Il est ténèbre et si nous nous tournons vers la lumière, nous acceptons que la lumière chasse nos ténèbres, le démon craint énormément. Bon, le baptême va donc nous faire mourir, hein, c'est ce qu'on appelle, je vous avais cité chez Jean de la Croix, ce que lui appelle des nuits. Hein, nous avons des perceptions trop affectives et sensibles, bon, il les enlève. Des sortes de possessions spirituelles, on croit être arrivé à quelque chose, il les enlève. Et qu'est-ce qui subsiste uniquement? C'est la confiance en Dieu. D'où la parole, on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Conclusion, hein, ainsi Jésus naît en chacun de nous. Mais il progresse différemment selon les dispositions de ceux qui l'ont reçu. Ça, c'est Grégoire de Nice, de nouveau. Voilà. Si on est disposé, et c'est cette chose impondérable, vous voyez, c'est là que va jouer la vie de prière, la vie intérieure. Et non pas en tant que je me mets en prière, je dois éprouver quelque chose ou je n'éprouve rien, vous avez compris que pas obligatoirement qu'on éprouve quelque chose. Mais en tant que tout mon être, il dit, voilà, Seigneur, je m'offre à toi. Plus 21, j'ai 30 ans de Carmel, j'ai l'impression que l'essentiel de la vie de prière, c'est d'être offrant. Pour qu'il puisse disposer de nous. Et disposer de nous, c'est pas pour abuser de nous, mais pour nous donner sa sainteté. Je m'offre. Offrez-vous pour recevoir, voilà, quelque chose de très concret dans votre vie de tous les jours. Dans vos prières, quelle que soit la forme de prière, mais offrez-vous à Jésus, et il va lâchement en profiter. Il va lâchement en profiter, et il vous fera découvrir des pans entiers de sa vie, d'amour, son projet d'amour pour nous. Donc voyez que le baptême est quelque chose d'absolument prodigieux, et que souvent, dans nos paroisses, nous le réduisons. Bon, le gamin a reçu le baptême, et puis c'est pas fini. Ce n'est que le début, c'est là que tout commence, et qu'il veut tout réaliser, et qu'il fait appel à notre bonne volonté, à notre désir profond de nous tourner vers lui, et après c'est lui qui veut nous transformer, et vous l'avez compris avec Jean de la Croix, jusqu'à nous rendre, à nous donner, à pouvoir nous redonner sa propre beauté. Tellement il nous aime. Alors le dernier sacrement, je ferai la confirmation après, ça va se situer entre les deux. Et là, le dernier, l'Eucharistie, nous permet de comprendre quel est le but atteint. Quand nous recevons l'Eucharistie, on ne fait pas gaffe, on est dans la procession, on le reçoit sur la langue, on le reçoit dans les mains, on va à sa place, puis on chante quelque chose. Mais enfin, cette rondelle-là de pain azyme, c'est Dieu. La modestie de Dieu qui se cache dans cette rondelle de rien du tout. Et si c'est Dieu, ce morceau de pain azyme doit avoir un pouvoir divin. Je vais l'aborder sous un autre angle. Le mariage, c'est fait pour... c'est la sacramentalisation de l'union entre un homme et une femme. Et l'union d'abord au niveau des sentiments, et puis l'union, allons-y gaiement, dans la chair. Ne former qu'un seul corps. Alors vous vous rendez compte là, que dans l'Eucharistie, de façon absolument chaste et apparemment très symbolique, c'est le corps du Christ qui pénètre dans mon corps. Et ça va, si la personne, toujours pareil, si la personne laisse agir au cours de son existence cette présence du Christ reçu dans l'Eucharistie en elle, ben ça va atteindre un stade de vie spirituelle que l'on appelle le mariage spirituel. Il s'unit véritablement à nous. Et je vais vous donner un exemple qui est typique au Carmel. Je ne m'appelle plus l'année, ça va être en 1572, je vérifie. Voilà, je l'ai marqué. Oui, en 1572. Voilà l'histoire suivante. Madame Thérèse d'Avila, elle aimait les grandes hosties, les gros morceaux d'hosties. Jean de la Croix, il dit, on me gonfle, je vais lui en donner un tout petit. Niqué. Dernière purification. Encore une attache sensible. Des grands morceaux d'hostie. Le Seigneur n'attendait que ça des mains de Saint Jean de la Croix. Alors il en donne un tout petit morceau. Et à ce moment-là, le Seigneur a contracté ce mariage spirituel avec Thérèse. Et comme dans tout mariage, ce qui est à l'époux est à l'épouse. Ton honneur, c'est mon honneur. Et mon honneur, c'est le tien. Donc je veille sur toi, de façon que plus personne ne peut toucher à ton âme. On peut faire ce qu'on veut à ton corps. Hein. Le couper un petit morceau, le faire cuire dans l'huile de chien. Mais, et alors, la fécondité du mariage, c'est les enfants. Et dans l'Eucharistie. Si nous laissions l'Eucharistie, je me range du même côté que vous. Si nous laissions l'Eucharistie accomplir ce qu'elle porte en elle, eh bien, cette union de notre âme avec Jésus produirait des enfants aussi. Une maternité spirituelle. Nous engendrerions beaucoup de personnes à la vie éternelle. Et vous comprenez par là que plus une âme est unie à Dieu et que cette union... il la réalise à travers ce troisième sacrement de l'union chrétienne, qui va, alors vous avez compris, le baptême fait qu'on atteint cette égalité de beauté. Si nous acceptons d'être purifiés, par l'Eucharistie, il s'unit à nous, et à ce moment-là, nous portons un fruit abondant dans l'Église. Vous voyez, tous les saints, les personnes que nous appelons les saints, sont arrivés à cette union avec Dieu. Et on voit les fruits, les fécondités de ces saints. Vous voyez, la petite Thérèse, par exemple, elle n'est jamais sortie du bas-fond là, humide de son Carmel de Lisieux, mais on en parle dans le monde entier de cette gamine. Et le nombre de personnes qui se convertissent par la petite Thérèse, c'est fou. Puis des gens qui viennent de très loin. Je vous en avais parlé, j'ai toujours été frappé par cette histoire parce que je l'ai connue à Sainte-Marie-du-Désert, chez les Trappistes, à côté de Toulouse. Le frère hôtelier, Grégoire, proxénète et assassin. 15 ans de tôle. L'aumônier de la prison lui donne l'histoire d'une âme de la petite Thérèse. Il s'est converti. Et dès qu'il est sorti de tôle, il est rentré à la trappe. Voilà un exemple de personne qui était très loin. Et vous voyez que les saints, à ce moment-là, la fécondité agit, parce qu'elle était déjà au ciel, hors du temps, et sans limite d'espace. Quand nous lisons les lettres de saint Paul, on est touché au fond des tripes. Et la sainte, si Paul a écrit de cette façon, c'est parce qu'il était saint, qu'il était uni à Dieu. Il était revêtu des sentiments du Christ. Hein, ce qu'il dit lui-même dans l'hymne aux Philippiens. C'est-à-dire qu'il raisonne, il voit, il pense, il aime, et il se donne comme Jésus s'est donné. Donc c'est une seule voie avec Jésus. Et ça porte toujours les lettres de saint Paul. Le père de tous les moines, saint Antoine le Grand, quand on lit les lettres de saint Antoine le Grand, 17 siècles après, eh bien, on est touché. Parce que cette personne parle, c'est ça, parler avec autorité. Hein, même si la personne s'exprime très mal dans sa langue, elle parle avec l'autorité de Dieu. Parce que ce n'est plus elle, véritablement, mais elle est poussée par l'Esprit de Dieu. Après, l'Esprit de Dieu respecte sa locution, quoi, sa façon de s'exprimer dans sa langue. Alors vous voyez, le baptême nous greffe en Dieu. Il a en lui, on pourrait dire, entre parenthèses, le mot n'est pas théologique, mais ce pouvoir de nous conformer à la beauté de Dieu. Déjà. Dieu nous épouse, et là on l'a vu à travers Thérèse d'Avila, c'est l'Eucharistie. Et à ce moment-là, la personne devient puissante parce qu'elle a un pouvoir sur les âmes, de les amener à Dieu. Et voilà pourquoi aussi Marie est la mère de l'Église. Hein, selon son corps féminin, elle met Jésus au monde. Mais sa maternité ecclésiale qu'elle reçoit dans la douleur, au pied de la croix, en recevant d'abord Saint Jean, ben, elle nous reçoit tous aussi et elle nous engendre à la vie. Et la docilité à Marie va nous permettre aussi de débloquer cet amour propre que nous avons de rester enfermés en nous-mêmes. Chez Élisabeth de la Trinité, dans sa prière à la Trinité, elle demande à l'Esprit Saint, celui qui féconde et qui donne la pureté, hein, qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. Il fait que plus une personne est sainte, ce qui est à Jésus est à la personne et ce qui est à la personne est à Jésus, ces personnes deviennent en quelque sorte de nouveaux Christ, des prolongements du Christ lui-même. Et c'est ce qui porte du fruit dans l'Église. Voyez tout l'intérêt que nous avons à nous laisser prendre, nous laisser aimer par Jésus. Sans faire de blocage. Nous sommes bloqués par notre psychologie. Hein, du style, j'en suis pas capable, je n'y arriverai pas. Mais bien sûr, tu n'y arriveras pas. Mais laisse-toi prendre par celui qui t'aime et fous-moi la paix. Quand j'étais prof, j'étais copain avec un gars de Villemur-sur-Tarn, qui était prof de gym. Il s'est retrouvé, puis du reste, il a quitté les sciences de la gym pour faire de la physio au niveau national, de la physio du muscle pour les athlètes. Et il me disait, c'est incroyable, mais tu sais, en athlétisme, les gens ne sont pas bloqués par leur capacité musculaire, ils sont bloqués par leur tête. Alors, a fortiori, quand c'est au niveau spirituel, nous sommes bloqués dans notre tête, et ce que je dis souvent aux gens en les accompagnant, écoutez, alors c'est toujours des oppositions, parce que je suis ceci, parce que je suis cela, écoutez, je vous coupe la tête et après vous irez beaucoup mieux. Vous pourrez fonctionner avec le cœur, il n'y aura plus aucun cran d'arrêt. Et vous voyez, tout cela, en amont, c'est parce que nous n'avons pas véritablement confiance en nous. Donc il ne peut pas, nous ne lui laissons pas la possibilité d'agir en nos âmes et de nous transformer. Nous n'avons pas confiance. Nous nous imaginons toujours que c'est des trucs pour les autres. Que nous, on n'est pas assez bien. Bien sûr qu'on n'est pas assez bien. Mais les saints n'étaient pas assez bien non plus. Mais ils ont cru. Ils ont eu cette confiance et cet abandon. Et il a pu à ce moment-là les transformer. Des paroles d'une personne que vous ne connaissez pas, j'espère qu'un jour elle sera sanctifiée. Vous avez peut-être entendu parler du grand théologien suisse-allemand, Balthasar, Urs von Balthasar, grand théologien jésuite. Il a écrit beaucoup d'ouvrages de théologie. Il s'est trouvé qu'étant jeune jésuite, il était appelé auprès d'une dame à Bâle, en Suisse, qui, de profession, était médecin, docteur en médecine, initialement protestante, convertie, ça c'est des mystiques quoi, qui ont des trucs extraordinaires, l'apparition de la Vierge, etc., elle s'est convertie, et puis après elle a été réduite à l'impuissance, un peu comme Marthe Robin. Mais avec non pas une mission comme Marthe Robin de fonder les foyers de charité, une mission théologique. Elle a compris des mystères en Dieu. Et voilà ce que elle s'appelait Adrienne. Von Speyer. Et voilà, vous allez comprendre à partir de ce que je vous ai dit. Il y a dans l'Eucharistie, dit-elle, des épousailles mystiques entre le Seigneur et l'Église, lors desquelles le Seigneur lui donne sa substance. Si l'Église dans sa totalité et en chacun de ses croyants communie elle de la même manière que le Christ se livre à elle, qui avait réciprocité de dons, elle pourrait complètement se laisser refondre selon le désir du Seigneur. Et donc devenir véritablement sainte. Et nous devenir des saints. Alors des tas de mots qui sont anciens mais qui sont jolis, qui vous permettront de comprendre. Un mot que nous connaissons indirectement par le Tour de France, tout le monde connaît maintenant l'EPO. Bon, on en donne au vélo et accessoirement aux coureurs. Hein, c'est une hormone qui permet de fabriquer les globules. Alors P, ça veut dire poieo en grec. Vous savez où on fabrique le sang, c'est dans la moelle rouge des os. Et quand on a un cancer des os, eh bien, ça veut dire que voilà, notre sang est malade et que on est bien affecté, peut-être qu'on va mourir. Alors, hématopoïèse, c'est ce que veut dire EPO. Hématopoïèse, c'est la fabrication des globules rouges. Donc vous avez le terme dedans grec fer, poieo, fer. Et un terme ancien, puisque nous nous laissons retransformer par Dieu, on devient enfant de Dieu, qu'on participe à ce qu'est Dieu, c'est une théopoïèse. Vous comprenez le terme, hein? On est fait Dieu, et Dieu, voilà. Et on se laisse enseigner à ce moment-là. C'est pas ce qu'on nous dit de Dieu, mais ce que nous découvrons par notre docilité. Alors vous savez que quelqu'un qui se fait lui-même, on dit qu'il est autodidacte. Et alors ce que disait Raymond Devos, je me suis fait moi-même, c'est pour ça que tout le monde, sur cette raison, tout le monde dit que je ne suis pas fini. Bon, ben alors on devient un théodidacte. On se laisse, voilà, c'est des termes anciens, on ne les utilise plus maintenant. Je vous les donne parce qu'ils sont beaux et permettent de comprendre. Il était dit par exemple de Saint-Antoine de Legrand, c'était un théodidacte. Il était enseigné par Dieu parce qu'il avait eu la docilité de se laisser retransformer par Dieu. Et on entre dans la connaissance profonde de ce qu'est Dieu. C'est-à-dire la gnose. C'est une théognosia, une théognosie. Hein. C'est... Nous comprenons Dieu par lui-même, parce qu'on est uni à lui, hein, parce que l'époux ne peut rien refuser à son épouse. Souvent en rigolant, les gens qui en arrivent là, les saints qui en arrivent là, hélas, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, ils comprennent le mystère de la Trinité, qui pour nous est assez obscur. Et en rigolant, je dis aux gens, mais que voulez-vous, puisque la personne est unie au Christ, le mariage, il présente sa belle famille. L'Esprit Saint et le Père. Et ils comprennent un peu ce mystère de circulation de l'amour dans la divinité. Chez Saint Bernard. Chez Saint Bernard, il dit à ce moment-là, il y a conformité de volonté entre l'âme et le Verbe. Aimant comme elle est aimée, puisqu'elle aime Dieu pour Dieu, comme Dieu l'aime pour soi. Son amour est parfait, et elle se trouve mariée. Voilà, ben je vais vous laisser là, puisqu'il est déjà 4 heures, ça passe vite. Vous savez ce qu'il a donné, Jésus, dernier truc. Comme cadeau de noce à Thérèse d'Avila.
Un grand de ski.
Non, un clou. Clou. Le clou de la passion. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je pense que la personne qui en est arrivée là, il lui donne ce qu'il a de plus cher pour l'humanité, c'est le don de sa vie pour l'humanité. Et la personne désire ardemment que sa vie soit consommée dans l'amour pour le salut de ses frères. Son amour est tellement grand. Alors bon, il aurait pu donner symboliquement un diamant, il lui donne un clou de la passion. Bon, ça n'a pas été trop complexe. Vous avez compris le sens de toutes ces choses-là. La confirmation, on verra demain. On finira par la confirmation. C'est entre les deux. Donc évidemment, ça va nous traduire un stade intermédiaire. Mais grosso modo, en quelques mots, on peut dire que la confirmation, le mot lui-même veut le dire, je suis confirmé dans ce que je vis. Donc l'Esprit Saint agit. Et je comprends de l'intérieur déjà très profondément qui est Dieu. Et voilà pourquoi je peux en parler et être apôtre. Par expérience que j'ai personnellement de Dieu. C'est ce qu'on appelle dans l'Église traditionnelle la voie illuminative, vous comprenez le mot. C'est-à-dire je suis illuminé intérieurement, ce qui était obscur pour moi de Dieu, je le comprends. Et c'est tellement beau, tellement extraordinaire, que je peux en parler en connaissance de cause, c'est formidable. Dieu est extraordinaire. Et voyez, souvent, on le sait trop bien, les gamins ne refoutent plus les pieds à l'église. Et donc, le sacrement est nul. Quoi, c'est...
Quand ils vont jusque-là.
Quand ils vont jusque-là. Donc, voyez, ce que nous fait Dieu, c'est le don de lui-même à travers ce sacrement. Et en nous faisant don de lui-même, il nous donne sa propre vie. Il nous transforme en lui. Il veut nous transformer en lui, si nous disons oui. Mais ce n'est pas, vous n'obtiendrez jamais rien au bout de votre volonté personnelle de vouloir faire par vous-même, si ce n'est le découragement, ce à quoi visent les forces des ténèbres, à nous décourager pour qu'on baisse les bras, qu'on ne fasse plus rien. Mais si on est ouvert à son action transformante, chaque fois il mettra une dose, il va nous dégager de nous-mêmes petit à petit pour... rentrer dans cette liberté, puisque c'est le thème de Lourdes, tu me disais, cette joie des enfants de Dieu. Donc la joie de la mission, en fait, ne pourra résulter, en fin de compte, que de la joie que nous aurons trouvée à être avec Dieu. D'où cette nécessité, même pour vous laïcs, d'avoir des temps pour être seul avec Jésus. Voilà.
Muy bien.